alors comment grandir dans l'amour et comment mûrir en Christ. Hein? Si nous vivons en relation avec Dieu, hein, puisqu'il faut grandir dans l'amour, hein, comment entretenir une relation saine avec le Seigneur? Comment éviter, d'un côté, il y a deux extrêmes. D'un côté, une vie marquée toujours par la culpabilité permanente à cause du péché, alors que Jésus nous a déjà délivrés de toute la culpabilité. Comment ne pas vivre toujours dans la culpabilité? Et de l'autre côté, avoir une attitude laxiste où tout serait permis sous prétexte que la grâce pardonne tout. Voilà les deux extrêmes de notre vie. Et la personne mûre en Christ, elle sait comment marcher dans le juste milieu. C'est vrai que de temps en temps, on tombe là, on tombe là, et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment vivre ça? La Bible nous donne en fait un exemple frappant. Il s'agit de David. Hein? En fait, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi un tel titre? Hein? S'il a été ainsi nommé, c'est bien parce qu'il a su, d'une manière ou d'une autre, toucher le cœur de Dieu. Hein? David a fait preuve d'une foi authentique, mais il a aussi commis des fautes terribles, hein? Des fautes que la Bible ne cherche pas à dissimuler, à cacher. Et chaque fois que David péchait, il y avait tout un tas de personnes autour de lui qui mouraient. Cela veut dire que le péché de David et nos péchés causent de la mort autour de nous. Hein? Lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, son fils qui meurt. Et ses autres enfants aussi, hein, qui commencent à se disputer entre eux. Lorsque David a péché en faisant le recensement du peuple à cause de son orgueil pour montrer combien il était un maître militaire, qu'est-ce qui se passe? 80 000 personnes meurent à cause d'un homme, un enfant est mort et 80 000 personnes meurent. Qu'est-ce que la Bible nous apprend là? Que nous ne pouvons pas dire c'est moi, c'est mon péché, je fais tout ce que je veux. Non. Pourquoi? Nous péchons et il y aura toujours la mort autour de nous. Les conséquences sont là, autour de nous. Le péché ne reste jamais que pour nous-mêmes. Ah oui, j'affronte moi-même les conséquences. Oui, mais et les autres? Et pourtant, David est connu comme l'homme selon le cœur de Dieu. C'est inimaginable. Pourquoi? Hein? Ce contraste qui nous interpelle, hein, d'un côté, des gestes empreints de noblesse, et de l'autre, des erreurs tragiques. Nous connaissons, hein, la vie de David à travers les récits des autres. Hein? Ce sont les autres, hein, de Samuel, un roi, ce sont les autres qui ont écrit sur David. Mais il existe un livre où David se raconte lui-même, où il ouvre son cœur sans filtre. David sans filtre. Hein? C'est le livre des psaumes. Hein? Et dans le livre des psaumes, David ne cache pas, il ne se cache pas derrière les apparences. Il exprime ses luttes, ses peurs, sa foi, son amour profond pour Dieu. C'est David vu par David lui-même. Et parmi tous ces chants, le psaume 3 se distingue. Ce psaume révèle la manière dont un homme, selon le cœur de Dieu, vit sa foi au milieu de la détresse, du danger, du péché, sans jamais perdre sa confiance et son assurance en Dieu. C'est ce texte que nous allons lire maintenant. Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Déjà ça, hein? Il fuyait son fils Absalom. Déjà le problème au sein de la famille. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, j'écris vers l'Éternel, et de sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Ce psaume naît au cœur de la détresse de David alors qu'il fuyait son fils Absalom. Le récit se trouve en 2 Samuel chapitre 15. Absalom s'était rebellé contre son père et il avait gagné sa cause de nombreux partisans. Hein? Absalom se révolte. Il arrive à trouver d'autres partisans qui se révoltent aussi contre David. Quand David apprit cette trahison, il prit la fuite. Et le texte biblique décrit ce moment comme une période de deuil profond pour David. Écoutons 2 Samuel 15, 30. Et là, c'est David par d'autres personnes. Psaume 3, c'est David lui-même qui parle. 2 Samuel 15, c'est une autre personne qui raconte la vie de David. David gravissait la montée des oliviers, les pieds nus, la tête voilée, et il pleurait. Tous ceux qui l'accompagnent avaient aussi la tête voilée et montaient en pleurant. Voilà le récit, hein, le moment historique lorsque David a écrit ce psaume 3. Donc, les pieds nus, la tête voilée, les larmes, tout cela exprime la douleur, la perte, la brisure intérieure. David vivait en effondrement. Quelque chose était mort dans son cœur. Le péché entraîne toujours la mort. Qu'on veuille pas, hein? C'est toujours la mort. Donc, quelque chose était mort dans son cœur, et pourtant, c'est dans ce contexte que le psaume 3 prend tout son sens. Ce psaume est le cri d'un homme dépouillé de tout, mais qui continue à s'adresser à Dieu. Et là, une phrase nous surprend quand même. Quand je me couche, je m'endors. Comment peut-on dormir au milieu d'une telle tempête? Parce que même dans la fuite et dans la peur, David a trouvé la présence de Dieu, une paix plus forte que la douleur. Lorsque nous lisons ce psaume, rien, mais absolument rien, ne semble favoriser la tranquillité de David. Il est loin de son palais, il est sans sécurité, sans ressources, sans confort. Sur le plan émotionnel, il traverse un deuil profond, la rupture avec son fils, et n'oublions pas, à son époque, il n'y avait pas de remède contre l'insomnie. Il n'y avait pas de technologie pour apaiser l'esprit. Il n'y avait pas de matelas en ressort de titanium pour qu'il se couche et s'endort. Comme il faisait. Il dort en paix. Comment est-ce possible? Quel est son secret? Comment un homme aussi pécheur que nous peut-il garder son cœur centré sur Dieu au milieu du deuil d'un côté et de sa propre faute de l'autre? C'est là que réside toute la beauté de ce psaume, car il nous révèle trois attitudes qui caractérisent une personne selon le cœur de Dieu. Trois choix intérieurs qui permettent de demeurer en paix, même quand tout autour de nous s'effondre. Et la première attitude, il faut faire une déclaration réaliste de sa propre condition. Verset 2 au verset 4. Faire une déclaration réaliste de sa propre condition. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui vit à l'écart du monde. Il ne se coupe pas du réel. Il ne fuit pas la souffrance. Il ne s'invente pas un univers sans douleur. Être chrétien, ce n'est pas voir la vie en rose. Ce n'est pas non plus ignorer la dureté du monde. La vie que Dieu nous offre n'est pas une évasion. Elle est plutôt une immersion, une plongée dans la vraie réalité. Celle où Dieu agit, même au cœur du chaos. Dieu ne nous invite pas à fuir la vie, mais à la traverser avec lui. Regardons David. Il ne se voile pas les yeux sur ce qu'il vit. Il voit clairement la menace qui grandit autour de lui. Dans les deux premiers versets, il répète trois fois le mot hébreu signifiant « beaucoup ». Il dit « beaucoup, beaucoup, beaucoup ». Hein? C'est comme s'il disait « Seigneur, c'est trop, je n'en peux plus ». Ses ennemis sont nombreux, l'impression est lourde, presque insupportable, et surtout, ils ne s'en prennent pas d'abord à son corps, mais à son cœur. Ils visent là où ça fait le plus mal, sa foi, son espérance, sa vie avec Dieu. Ils murmurent. Il n'y a plus de secours auprès de ce Dieu-là. Hein? Autrement dit, ton Dieu t'a abandonné, David. Et leur but est clair, l'écraser de l'intérieur, détruire en lui toute confiance. Mais tout change au verset 4. David ne nie pas la réalité, mais il la regarde en face. Il choisit de la vivre avec Dieu et il proclame « Toi, Éternel, tu es mon bouclier ». Il ne dit pas « Seigneur, avec toi, les problèmes n'existent pas ». Or, s'il a besoin d'un bouclier, c'est bien parce que les problèmes sont là. Quel est le choix de David? Il ne nie pas la réalité, il dit tout simplement « Seigneur, au milieu de tous ces problèmes-là, tu es mon bouclier ». Quelle déclaration de foi! Et dans le terme en hébreu, le mot « bouclier » évoque cette protection qui entoure complètement de tous les côtés. Ce n'est pas juste un truc en acier, juste une petite paroi. Bouclier là, ça veut dire quelque chose qui nous entoure de partout. Et puis, il ajoute, « Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Autrement dit, les circonstances m'écrasent, mais ta présence me redresse. Quel contraste bouleversant. Dans 2 Samuel 15:30, David monte la colline des Oliviers, tête voilée, pieds nus, en pleurant. Ça, c'est le regard des autres à propos de David. Qu'est-ce que David dit à propos de lui-même dans la même circonstance? Tu relèves ma tête. Le même homme, la même détresse, mais un regard renouvelé sur les circonstances. Et pourtant, les circonstances n'ont pas changé du tout. Ce n'est pas la situation qui change. C'est la perspective de David qui a changé. La foi ne nie pas la réalité. Elle requalifie la réalité à la lumière de Dieu. Le croyant ne vit pas dans une illusion, mais dans une espérance lucide. Mais quand tout semble perdu, il peut marcher la tête haute, non parce qu'il est fort, mais parce qu'il sait, Dieu est avec moi. David ne fuit pas la réalité, il ne se cache pas derrière des phrases toutes faites comme « tout va bien », « oui, ce n'est qu'un mauvais moment ». Il n'y a pas ça dans la Bible, hein. Il n'y a rien dans la... Ah, mais tout va bien se passer. Non, on ne savait, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein? Mais David ose dire la vérité. C'est dur, c'est lourd, ça fait mal. Mais sa prière n'est pas une fuite. Sa prière, c'est une ouverture de cœur. Il présente les choses telles qu'elles sont. Et c'est là que Dieu agit. Sa gloire, ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas parce qu'il était le roi qu'il avait la puissance du trône d'Israël. Non, sa gloire, c'est le Seigneur. Sa sécurité ne vient ni de ses ressources, ni de ses plans. Parce que Dieu a son bouclier, il peut affronter les menaces sans s'effondrer. Quand les autres disent « il n'y a plus de salut », David répond « Tu es ma gloire. Même dans les larmes, même dans la tête baissée, il garde une conviction ferme. Dieu est présent et c'est de lui qui vient sa force. Et nous aussi. Nous vivons dans un monde où le péché règne, où chacun cherche son propre intérêt. Et ce climat rend la vie rude, parfois injuste. Mais le chrétien est appelé à une autre posture. Il ne cherche pas à dominer. Le chrétien ne cherche pas à prouver qu'il a raison. Et quand il est victime d'injustice, il sait qu'il peut compter sur la protection de Dieu. Dieu ne nous demande pas de nier la réalité, mais de la vivre dans la confiance. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence de souffrance, c'est la certitude d'être entouré par le bouclier de Dieu. Et oui, la foi peut-elle, elle peut être attaquée. Et oui, notre foi peut vaciller. Le doute n'est jamais un péché. Jamais dans la Bible, le doute, il est marqué comme un péché. Le péché, c'est le fait de ne pas persévérer. Mais le doute, non. Nous doutons, mais nous continuons. Ça, oui. Celui qui connaît son Dieu sait que sa gloire ne vient pas du monde. Le monde cherche la gloire pour lui-même. C'est ce qui engendre tant de conflits. Le chrétien, lui, il peut traverser ces conflits dans la paix, car il sait que sa gloire vient du Seigneur. Et parce qu'il ne cherche pas la gloire passagère des hommes, il peut vivre dans la paix durable de Dieu, enraciné dans cette vérité, ma gloire est le Seigneur. Si notre gloire ne vient pas de nous, alors nous n'avons plus besoin d'alimenter les conflits. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui protège. Vivre ainsi, c'est déjà résoudre beaucoup de nos tensions relationnelles. C'est déjà régler la moitié de nos problèmes. Et pour celles que nous ne pouvons pas éviter, après tout, le monde il est rempli de problèmes, nous savons que Dieu veille sur nous. Et oui, les conflits existent. Oui, les blessures font mal. Mais au cœur même de ce moment, nous pouvons garder la paix. Notre sécurité ne dépend pas de la victoire dans une dispute, mais de la présence du Seigneur à nos côtés. Si au contraire, nous plaçons notre confiance en nous-mêmes, si nous cherchons à avoir raison à tout prix, nous ne ferons qu'attiser le feu en blessant les autres et nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, faisons tous ce choix. Choisissons la confiance, pas la défense. À part si vous travaillez à Paris, là, il faut choisir la défense. Choisissons la paix, pas le contrôle. Le bouclier de Dieu, pas nos larmes humaines. Et souvenons-nous, le Seigneur est notre bouclier et notre gloire. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous honore. Il y a une deuxième attitude de quelqu'un selon le cœur de Dieu. Hein? Il s'agit de chercher constamment la face de Dieu, selon le verset 5 à 7. La relation que Dieu nous propose n'a rien de superficiel. Elle est réelle, vivante et profondément humaine. Et dans toute relation sincère, il y a des moments de joie, mais il y a aussi des moments de questionnement. Dire « Pourquoi, Seigneur ?» n'est pas un signe de faiblesse, mais il s'agit d'une marque d'authenticité. Pourquoi, Seigneur? Oser poser nos questions à Dieu, c'est déjà entrer dans une relation vraie. Se reconnaître que nous ne jouons pas un rôle devant lui, mais que nous vivons une intimité profonde, fondée sur la confiance. Au verset 5, David nous révèle la profondeur de sa relation avec Dieu. Il ne se contente pas de murmurer une prière, il crie vers le Seigneur. Il ne prie pas, il crie. Et ce cri n'est pas un simple mot, c'est une expression brûlante de sa détresse, de sa foi. Et le texte en hébreu, il est très fort. Hein? Le verbe là, ça indique une action continue. Cela veut dire que David n'écriait pas au Seigneur qu'à ce moment-là. Le texte en hébreu nous laisse entendre que la vie tout entière de David était un cri au Seigneur. David n'écrit pas une fois, il crie régulièrement, constamment. Ce cri fait partie de sa marche quotidienne avec Dieu. Mais ce cri n'est pas un acte désespéré.
Eh oui.
Il repose sur une conviction solide. Dieu l'écoute toujours. Là encore, le texte en hébreu laisse entendre cette constance, la constance de l'écoute de Dieu. David sait d'où vient son secours. Il sait que Dieu entend, qu'il répond, qu'il soutient. Puis David s'arrête. Il fait une pause dans sa prière. Et pourquoi? Parce qu'il prend le temps d'évaluer sa réalité. Il prend le temps d'évaluer son état physique, moral, émotionnel et spirituel. Cette pause n'est pas un doute, mais c'est un signe de maturité spirituelle. Il faut savoir s'arrêter. Hein? Cette pause lui permet de mesurer la profondeur de sa foi et de recevoir la paix que Dieu lui donne. Parce que si c'est bas constamment, oui, je lutte avec le Seigneur, à quel moment il recevrait la paix de Dieu? Il serait très occupé. Là, il se pose, il se calme, il reçoit la paix de Dieu. Et le résultat est clair. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Cette confiance a un effet concret, la paix. Hein? Même au milieu des dangers, David n'est pas paralysé par la peur, parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Ainsi, ce verset nous enseigne une triple dynamique spirituelle. La prière passionnée, la foi constante et la pause réfléchie devant Dieu. C'est cette combinaison qui engendre le repos, le courage, la sérénité, même dans l'épreuve. David nous rappelle que la véritable bataille ne se joue pas à l'extérieur contre les ennemis. La vraie bataille se joue devant Dieu. Notre vraie bataille est toujours devant le Seigneur. C'est un homme des prières, mais pour lui, la prière ne s'arrête pas au cri. Il y a cette étape essentielle après la prière, l'attente. Et oui, l'attente fait partie de la prière. Hein? Que faisons-nous après avoir crié, évalué notre situation? David attend la réponse de Dieu avec confiance. Hein? La mention dans le texte de la montagne sainte, ça veut dire que Dieu règne au-dessus de tout. Dieu voit, Dieu sait, Dieu agit. Mais souvent, dans notre attente, nous restons focalisés sur nos problèmes, sur nos inquiétudes, sur nos émotions. David, lui, il nous montre qu'il est possible de faire une pause au milieu de la tempête et de reconnaître que Dieu écoute et de trouver la paix en lui. Cette démarche, crier, attendre et écouter, transforme notre prière en une expérience spirituelle profonde et ça approfondit notre relation avec Dieu. Elle ne nous endort pas, elle nous fortifie. Elle nous donne la force d'agir selon la volonté de Dieu, même quand tout semble bloqué. David nous rappelle que la véritable bataille, elle est toujours devant Dieu, cette relation entre David et Dieu qui était vivante, intense, pleine de vérité. Il ne cachait rien, ni ses doutes, ni ses peurs, ni ses chagrins. Tout était déposé devant le Seigneur. Et nous? Notre relation avec Dieu garde-t-elle cette intensité? Nos prières sont-elles encore honnêtes, créatives, passionnées? Ou sont-elles devenues routinières, mécaniques? Comme David, Moïse ou même Habacuc, hein, ils sont tous passés par des grands moments de doute, de crainte, de pourquoi Seigneur? Hein? Nous sommes invités à parler à Dieu en vérité, à lui poser nos questions, à exprimer nos émotions, à lui dire ce que nous portons vraiment. C'est cette authenticité qui nourrit la paix intérieure parce qu'elle ouvre notre cœur à la voix de Dieu et renforce notre confiance en lui. Mais cette relation demande aussi du silence. Ce silence qui permet à Dieu de répondre. C'est dans la pause, dans l'écoute, que la paix divine se manifeste. Et cette dynamique, prière sincère, évaluation honnête et attente dans la confiance, fait naître en nous la sérénité et le courage pour continuer à avancer avec le Seigneur. Frères et sœurs, cherchons la face de Dieu dans toutes les situations, qu'elles soient simples ou douloureuses. N'ayons pas peur de lui parler avec un cœur ouvert. Il connaît déjà tout, mais il désire nous entendre. Crions vers lui avec sincérité et confiance. Ne portons plus de masques devant le Seigneur. Restons dans l'attente patiente de sa réponse, car Dieu parle à ceux qui persévèrent dans sa présence. Et nous verrons, plus nous nous approchons de Dieu, plus notre relation deviendra profonde, vivante et forte. Même au milieu des épreuves, sa paix remplira nos cœurs et nous donnera la force d'avancer. Et finalement, il y a une troisième attitude de quelqu'un selon le cœur de Dieu. Il s'agit de se reposer sur la souveraineté de Dieu, selon les versets 8 et 9 du psaume 3. Et oui, nous vivons dans un monde troublé. Tout autour de nous semble agité, instable. Nos âmes, elles aussi, traversent des tempêtes intérieures. Nous cherchons la paix. Mais où la trouver? Hein? Peut-elle venir d'un monde en désordre? Peut-elle venir de nous-mêmes, alors que nos cœurs sont souvent confus, troublés et agités? Si ni le monde, ni nous-mêmes ne pouvons être le fondement de la paix, alors où se trouve-t-elle? Quel est le véritable socle sur lequel poser notre sérénité? La dernière partie de ce psaume dépasse la simple conclusion. C'est une véritable déclaration de foi de David. Face à une réalité dure, parfois cruelle, il choisit de lever les yeux vers Dieu, de chercher sa face et d'ancrer sa paix dans la souveraineté divine. Sa paix ne vient ni du monde, ni de lui-même. Elle repose sur une vérité solide et toujours inébranlable. Le salut appartient à l'Éternel. Nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. Le salut appartient au Seigneur. Peu importe ce que les hommes disent, hein? Ce sont les hommes qui disaient à David, il n'y a plus de salut pour toi, David. Hein? Et peu importe ce que les autres disent, même si certains affirment qu'il n'a plus de salut en Dieu, David s'accroche à cette conviction. Après avoir crié sa détresse, il ne tombe pas dans le désespoir. Il termine sa prière dans la confiance totale. Cette confiance s'accompagne d'une profonde humilité. David reconnaît ses limites. Ici, jusqu'ici, pour moi, c'est trop. Là, mes limites ont été atteintes. Je n'en peux plus. Hein? Il faut avoir un certain degré de maturité pour savoir quelles sont nos limites. Parfois, nous ne connaissons même pas nos limites. Mais si nous connaissons déjà nos limites, jusqu'ici, je vais. Là, à partir de là, non, ce n'est plus pour moi. Et David connaissait. Hein? Et pourtant, Il ose poser des questions car le dialogue sincère fait partie d'une relation vivante avec Dieu. Mais il ne reste pas bloqué dans ses interrogations. Il pose des questions au Seigneur, mais il ne reste pas là. Il avance, il prie, il croit. Et soudain, sa prière devient presque combative. Il est dans le combat de la prière. C'est toi, Seigneur, qui frappe mes ennemis. C'est toi qui brises les dents des méchants. Voilà un cri puissant, digne d'un boxeur spirituel. Hein? C'est le Seigneur Mike Tyson. Seigneur, tu brises les dents aux méchants. Eh oui, c'est la prière Mike Tyson. Hein? Mais attention, attention. Il y a une nuance là dans le texte. David ne cherche pas la vengeance. Il confie son combat à Dieu. Il ne dit pas, Seigneur, je frappe. Quelle est la prière là? Seigneur, tu frappes. Hein? Tout son langage traduit une foi active. Il remet à Dieu sa colère, sa peur et son désir de justice. David n'agit pas pour lui-même. Il remet tout ça. Ce n'est pas interdit hein, d'avoir de la colère. C'est interdit de pécher par la colère. Là, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il reconnaît ses limites, il remet tout ça entre les mains de Dieu. Et c'est ça le signe d'une maturité spirituelle. Il n'agit pas pour lui-même. Hein? Ainsi, même dans une prière intense, David reste centré sur Dieu et non sur ses ennemis. Voilà la question. David ne reste pas centré sur ceux qui lui ont fait mal. Même sa prière, dans sa colère, dans sa détresse, il est toujours centré sur Dieu. C'est toi mon bouclier, Seigneur, c'est toi qui frappes, Seigneur. Hein? Son but n'est pas sa victoire personnelle. Le but de David, à la fin du psaume, c'est la manifestation du salut de l'Éternel. Il cherchait la manifestation de Dieu dans le monde. Hein? Il sait que seul Dieu peut délivrer. Et la délivrance ne vient ni de sa force, ni de ses armes, mais de la main souveraine de Dieu. Et au final, David nous enseigne une vérité essentielle. La vraie paix, qu'est-ce que ça veut dire paix? Absence de problème? Non. Paix, ça veut dire un ensemble, en harmonie. Au milieu du chaos, au milieu de la détresse, au milieu des problèmes, nous sommes en harmonie, nous formons avec Dieu un ensemble harmonieux. Et pourtant, le chaos règne autour de nous. Hein? La vraie paix naît de la confiance totale dans le Seigneur, même au cœur du combat. Celui qui dort bien n'est pas celui qui comprend tout, mais celui qui fait confiance. Poser des questions à Dieu n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe d'un cœur vivant. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette douleur? Ces questions ne détruisent pas la foi, elles l'expriment. C'est tout au contraire. Celui qui dort bien malgré les tempêtes sait se reposer sur la parole de Dieu. Il ne nie pas la souffrance, il ne fuit pas ses questions. Il le dépose simplement devant Dieu dans l'humilité, reconnaissant qu'il ne peut tout comprendre ni tout maîtriser. C'est dans cette honnêteté et dans cette dépendance à Dieu qu'il naît la paix véritable, une paix qui vient de Dieu, non de nos efforts. Reconnaître notre incapacité ouvre la porte à la grâce. Nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Le salut appartient au Seigneur. Tout est grâce. Et cette grâce transforme notre regard. David, au tout début de sa prière, il est centré sur lui-même. Les ennemis qui m'entourent, hein, Mais, hein, il termine, comment il termine cette prière, le psaume 3? Il se tourne vers les autres. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur ton peuple. Au tout début, il est centré sur lui-même. Seigneur, combien nombreux sont mes ennemis, c'est pas possible et tout. Et il termine se tournant vers les autres. Ta bénédiction sur ton peuple, Seigneur. En fait, il a compris, le peuple appartient à Dieu. Seul Dieu peut bénir, sauver et donner le repos véritable. Cela veut dire que cette prière avait transformé David. Il ne prie pas pour convaincre Dieu de sa cause. En fait, il prie pour se laisser transformer par le Seigneur qui entend la prière. La prière a transformé David. La prière a élargi son cœur. David part du moi au nous, de l'inquiétude à la paix. Le chrétien qui dort bien ne comprend pas toujours le moment présent, mais il comprend le plan global. Il ne saisit pas toujours le pourquoi de la souffrance, mais il sait entre quel moment repose son histoire et il peut dire avec foi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et rien, ni les ennemis, ni la douleur, ni l'incompréhension ne peut le séparer de l'amour de Dieu, car le salut appartient au Seigneur. Dormir bien, c'est s'abandonner entièrement au Dieu souverain, avec honnêteté et humilité. Et quand cette confiance s'enracine, elle porte son fruit. Paix, sérénité, certitude que Dieu tient toutes choses, y compris notre salut. Je vous invite aujourd'hui à vous approcher de Dieu avec honnêteté et humilité. Reconnaissons ensemble que nous sommes incapables de nous sauver par nos forces. Mais si nous nous ouvrons au Seigneur, sa paix inondera nos cœurs et elle nous transformera. Reposons-nous sur la souveraineté de Dieu. Le salut est entre ses mains. Et même au milieu de la souffrance, nous pouvons vivre en paix. Et oui, la douleur est réelle. Mais elle ne doit pas nous plonger dans le désespoir. Le Seigneur est à nos côtés. Sa présence nous réconforte, nous fortifie et nous soutient dans nos moments les plus difficiles. Aujourd'hui, n'enfermez pas nos inquiétudes et nos sentiments. Apportons-les au Seigneur avec confiance et humilité. Laissons-nous travailler par Dieu. Renouvelons nos cœurs et Dieu nous donnera la paix qui dépasse toute la compréhension. Engageons-nous à vivre chaque jour dans cette proximité avec lui, car c'est là qui réside force, joie, espérance véritable et la paix qui dépasse toute la connaissance humaine. Que l'océan nous bénisse et nous garde. Prions. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole qui transforme nos cœurs. Seigneur, apprends-nous à marcher la tête haute, non parce que nous sommes forts, mais parce que tu nous accompagnes. Aide-nous, Seigneur, à faire comme David. Malgré les problèmes, les difficultés, le chaos qui règne absolu dans le monde, dans notre vie aussi, que nous puissions, Seigneur, nous confier toujours en toi, en cœur ouvert, dans toute honnêteté, simplicité. Seigneur, apprends-nous à nous confier à toi, Seigneur, chaque jour de notre vie. Que ta parole remplisse nos cœurs de l'espérance vivante de t'appartenir, parce que le salut t'appartient. Ce n'est pas nos mérites. Ce n'est pas quelque chose que nous avons pu faire, mais c'est la grâce. C'est ta grâce envers nous, Seigneur. Garde-nous jusqu'au jour du retour du Christ, ce jour glorieux où nous serons toujours ensemble pour toute l'éternité. Et en attendant, Seigneur, que nous puissions nous reposer sur toi, Seigneur, dans le cri de nos prières et dans l'attente de ta réponse. Au nom de Jésus, Seigneur.